Je commencerai par dire ce qui me marque comme résonance entre les deux terrains. C'est que dans les deux cas, les procédés d'anéantissement de la Terre qu'on voit à l'œuvre, que ce soit toi dans des pratiques de terrain ou de mon côté dans quelque chose comme, vous vous rappelez, comme l'esprit scientifique, n'ont aucun... Enfin, toute la bonne volonté que les acteurs déploient n'empêche, enfin, n'est pas une garantie suffisante pour... Enfin, ce qui m'intéresse, c'est de voir que du côté des écologistes, quand tu dis que tu étais au début enthousiaste par cette notion des écosystèmes et qu'on voit qu'en fait, ils ont des bonnes intentions, et que malgré tout, c'est une question d'équipement, et donc c'est pas une question finalement de prise de conscience ou de décision, etc. Et c'est ça qui m'intéressait comme lien entre les deux.
Oui, donc ça, je crois que c'est essentiel. La bonne volonté ne changera strictement rien à ce qu'on essaye de mettre en place quand on veut essayer de changer un rapport de force. Avec quoi on s'équipe et quel type d'abstraction on va utiliser, quel type de même pas de récit, de conceptualisation du territoire va être essentiel. Et donc j'essaye de plus en plus quand je vais dans des milieux militants de dire c'est son d'utiliser le mot écosystème. Parce que même la notion, hier il y avait un très bel exposé sur les droits de la nature, mais quand on dit on est en train de protéger le fonctionnement de l'écosystème, vous pensez bien, le fonctionnement d'un écosystème, c'est input-output, hein. Dans les rapports, c'est ça. Et donc, il y a un moment où il faut devenir technique, aller lire ces rapports et voir que on pourra faire fonctionner un système avec des dilutions de pollution, avec des ajouts d'eau saline ou pas saline. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, protéger un fonctionnement d'un système, au fait, prête le flanc. Et alors, deuxièmement, il y a le problème de la valeur. Le fait que c'est nous-mêmes qui devons dire, ah oui, mais on voudrait plutôt que si on inonde, qu'on inonde les industries et pas nous. Mais au nom de quoi? L'écosystème, lui, se porte très bien. Ah oui, mais au nom, en fait, de quelque chose qui s'appelle la justice sociale. Et c'est là qu'on voit évidemment qu'il y a une grande différence avec les lignes des aborigènes. Enfin, ça n'a rien à voir puisqu'il y a une vraie multiplicité qui fait tenir que c'est là et pas ailleurs. Et c'est à ça qu'on tient dans celui-là. L'écosystème ne permet pas de faire ça. La Terre Gaïa non plus, c'est un système, c'est exactement la même chose.
Et c'est comme si en fait la confusion portait sur l'écosystème est un concept qui devrait nous aider à protéger quelque chose de la
Oui,
Terre,
oui.
et que là on prend l'outil qui devrait nous aider à protéger pour ce qu'il s'agit de protéger. En fait, j'ai l'impression que c'est là que ça se situe ce glissement.
Oui, et en t'écoutant, je me dis peut-être que si j'écris là-dessus, je dirais, c'est une abstraction qui a son utilité, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais au fait, peut-être de plus d'oser et de dire, à certains moments, c'est super utile. En des termes urbanistiques, pour l'instant, on n'a pas d'autres moyens. En fait, littéralement, en termes urbanistiques, les règlements administratifs, si on rentre dans ces arènes-là, c'est peut-être utile. Mais ne le réifions pas. Et pour l'instant, je trouve que beaucoup d'écologistes, pas les écologistes décoloniaux et autres, ou peut-être écoféministes, hein, mais le mainstream s'accommode très bien de l'écosystème, tout en ne réalisant pas qu'au fait, on ouvre la porte à un affaiblissement de notre position dans le rapport de force. Ça, c'est pour moi évident. Donc, je reprendrai peut-être que l'écosystème est une abstraction négligée. Peut-être que c'est ça. Quand Carson arrive avec cette circularité, c'est magnifique quand elle le décrit. Ça va nous revenir. Vous pensez bien que ça va être métabolisé. Et peut-être qu'il faudrait le retravailler à l'aune de ce que les premiers dans les années 20, 30 en ont fait. Et d'ailleurs, et après j'arrête, je suis très bavarde, mais, et d'ailleurs, le port d'Anvers a commencé à s'intéresser à l'écosystème. Quant au fait, ils ont commencé à lire ces rapports d'incidence, ils se sont dit, mais là, ça marche mieux. Parce qu'on commence à parler de fonctions autorégulatrices du fleuve. Ah, mais nous, ça nous intéresse, puisqu'au fait, on a des obligations de pollution. Nous aussi, on veut que ça s'autorégule, que ça se auto-dépollue. Nous aussi. Alignement d'intérêts et total malentendu, évidemment, puisque les autres le disaient pour arrêter les déversements de pollution. Voilà. Quand les autres s'y intéressent trop vite, peut-être qu'il faut bouger. Voilà. Et moi, je voulais peut-être attirer l'attention sur une chose que tu as amenée, et c'est l'altérité, les altérations réciproques. Que tu travailles beaucoup hein, sur Sagan dans ta spéculation va être altérée par la rencontre avec ces extraterrestres qui sont absolument pas à la hauteur de ses attentes. Et je me demande si, en fait, quand on dit on doit apprendre des autres cultures, des autres ontologies, il ne faudrait pas commencer à se demander mais c'est quoi l'altération réciproque qui se fait quand on se met à travailler ensemble ? Parce que je commence à être mal à l'aise, au fait, quand on dit on doit apprendre des... Je ne vise personne, mais quand des anthropologues travaillent sur les aborigènes, ça fait tout. Moi, j'ai lu beaucoup Deborah Birdrose et ça m'a appris énormément. Mais quand nous, ici, sans aller là-bas, on dit qu'il faudrait apprendre de ces peuples, je commence à être mal à l'aise parce que où est l'altération réciproque? Où est-ce qu'on se frotte à quoi? Comment on change? Et ce n'est pas si évident de tout à coup réenchanter. Et donc, on doit le faire avec les moyens qui sont les nôtres. Et peut-être que c'est par l'écosystème. Peut-être que ce sera avec les communs qu'on a eus à une certaine... Donc, cultiver les résurgences. Et donc, je me dis, au fait, le fantasme de l'altérité n'est pas radical, n'est peut-être pas le problème de l'écologiste mainstream, qui lui, là, alors vraiment, hein, c'est pas son problème, mais peut-être notre problème, les écologistes féministes, anticapitalistes, antidécoloniales, décoloniales, je veux dire. Donc, ce fantasme de l'altérité, au fait, ça a joué des tours à Sagan, mais je crois que ça nous joue des tours aussi. Et que les choses deviennent intéressantes que quand on sent qu'on est concerné par le problème qui est posé. Si on est déjà indemne parce que nous, on connaît tout, ben, il n'y a rien à penser. Et c'est ça qui m'a intéressée chez ces écologistes, c'est que j'étais contente au début, quand ils ont dit « on va regarder le bassin hydrique complet ». Et petit à petit, j'ai vu qu'ils n'étaient plus capables de dire « la rivière est morte et nous en pleurons ». Voilà, il y a une perte.
C'est intéressant parce que pour moi, c'est quasiment la trajectoire inverse que j'ai eue à mon sujet, de dire Carl Sagan, c'était difficile d'être directement en adhésion et en empathie avec lui, tellement en fait, c'est un personnage très caricatural. Mais donc, moi, je me suis donné la consigne de chaque fois que je le trahissais ou j'en donnais des versions, je devais le rendre... essayer de trouver en quoi il était intéressant et que finalement, l'intérêt pour ce personnage en disant... Les affects sont peut-être vrais, peut-être qu'il y a un problème, ce qui ne légitime rien, etc., mais qu'il y a juste un dispositif technique pour porter la bonne attention à lui. Enfin, donc, c'est marrant parce que moi, c'est la trajectoire est quasiment inverse de prendre un sujet un peu répulsif au début et moi-même d'entrer finalement dans une trajectoire d'altération en disant il me dit quelque chose qui est quel est notre problème, comment apprendre à se présenter, etc. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur. Le fantôme de l'altérité radicale qu'on chercherait en restant sur place, etc. Et moi, ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est, enfin, ça me fait penser à une phrase dans Singer, dans l'introduction au livre de Toby Nathan sur l'hypnopsychiatrie, de dire ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce récit, les autres, ils sont encore là pour nous. C'est nos figures rédemptrices, ils doivent nous restituer. Enfin, c'est ça qui est là très fort dans le récit de Sagan, c'est les autres. Doivent nous porter dans un devenir qui va nous faire sortir de nous-mêmes. Et du coup, on n'arrive pas à considérer qu'ils sont là avec leurs propres problèmes. Et c'est ça qui... Enfin, moi, j'essaie d'un peu de défaire dans mon histoire en faisant en donnant à Sagan des interlocuteurs qu'il prend pour des extraterrestres, mais qui, en fait, sont des extraterrestres du futur, et qui, en fait, ont leurs propres problèmes. Ils ne sont pas là pour les modernes, ils sont là pour... parce qu'eux ont un problème avec leur héritage de cette situation, etc. Et donc, enfin, voilà, c'était pour rebondir sur ce point-là.
Moi, j'ai une question sur ce que tu disais, Bénédicte, que je trouve très intéressant, sur ce risque potentiel de dire, voilà, il y a un savoir, une sagesse autochtone, et il faut s'en inspirer. Et je suis d'accord qu'il ne s'agit pas de transposer telles quelles des sagesses qui sont liées à des contextes pacifiques, des Amériques, mais peut-être juste considérer qu'il y a d'autres modes de pensée possibles D'où l'intérêt effectivement de rapprocher de cette idée des communs, parce que finalement, je pense que en Europe, au moment où on perd les communs, ou en tout cas en Angleterre, la propriété privée remplace les communs, et donc il y a un savoir qui se perd, qui est diabolisé, les sorcières, en fait, c'est ça, c'est cette connaissance de la nature, c'est juste, voilà, aussi peut-être retrouver cette sagesse qui existe localement, et effectivement s'en inspirer.
Oui, hier quand je suis intervenue, à un moment donné, je disais que le dehors est en nous. Et moi, en tant qu'anthropologue, je ne suis pas du tout dans une vision de l'altérité. D'ailleurs, je ne dis pas que je travaille sur les aborigènes, mais avec, depuis 43 ans. Et je pense que la force de l'expérience en étant sur le terrain, mais déjà aussi d'un certain nombre d'une ambiance critique que j'ai essayé de faire passer au début de mon exposé sur ce qu'étaient les années 70 en France, pour certains, bon, enfin, qui traversaient quand même la société depuis 68, c'est que, ayant cette ouverture, qui était assez critique des modernes déjà, j'ai pu voir des choses sur le terrain, parce que là, il s'agissait de poser les pieds dessus, avec des hommes et des femmes aborigènes, des Walkiris et leurs voisins, qui n'étaient pas dans les livres. Bon, et à vrai dire, l'anthropologie, qui est une discipline coloniale, n'a de sens, ne se perpétue aujourd'hui que parce qu'elle n'arrête pas de critiquer les paradigmes d'avant. Donc, dans les années 70, il y a eu beaucoup de critiques. Et donc, le fait d'avoir cette ouverture m'a fait voir autre chose. Bon, c'est pas par hasard, j'avais suivi les cours de Deleuze, j'avais lu Rhizome, l'anti-Oedipe, j'étais sensible à un certain nombre de choses, et notamment à cette idée de ne pas chercher l'ancrage de la terre comme étant une question de sol et de sang qui est exclusif. C'est nous qui fabriquons l'altérité. Donc, la leçon pour moi, avec les aborigènes, venir rencontrer une sensibilité philosophique qui vient, pour le coup, de deux critiques de modernes, mais qui sont bien de chez nous, donc Deleuze et Guattari, et tous les philosophes de la différence, et toutes les féministes, voilà, tout ce mouvement qui nous intéresse, et que donc, voilà, ça m'a fait changer les lunettes. Bon, je n'étais pas la seule, il y avait d'autres femmes féministes aussi qui le faisaient en Australie, et à travers le monde, dans d'autres sociétés. Et du coup, il faut quand même bien dire qu'il m'a fallu 10 ans pour rentrer au CNRS avec 3 livres, parce que mes collègues n'acceptaient absolument pas le fait d'insister sur l'importance de cette manière de vivre la terre, qui pour moi n'était pas du tout quelque chose d'exotique, mais qui résonnait avec la manière dont moi j'avais envie de vivre le monde, et donc et qui intéressait des tas de gens. Parce que le fait que les aborigènes aient investi sur le rêve, c'est une expérience que nous faisons tous. Et passer par là, le modernisme de la psychanalyse et de Freud qui a tout individualisé, et nous avons perdu, pas seulement ce qui était pré-chrétien, mais toutes les traditions de vécu, d'interprétation collective des rêves, le fait de en rêve, d'être en mémoire, pas seulement avec des humains, mais avec des non-humains, d'être en mémoire avec des lieux qui continuent à nous habiter. On n'a même pas besoin d'avoir des traditions et culturelles qui sont prédéfinies. C'est quelque chose qui, dès lors qu'on s'ouvre, peut nous traverser tous. Donc, pour répondre à ce que tu disais, Bénédicte en particulier, moi, je ne pense pas que la question, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser, s'approprier, donc pour le coup, qui était la question tout à l'heure avec Ariel Salé, il ne s'agit pas de s'approprier ces savoirs. Quand des aborigènes voyagent ou des Amérindiens et sont invités ici, ils rentrent dans un débat. Très souvent, ils disent, voilà, vous ne devez pas nous copier, allez chercher, vous, ce qui est en vous, ce qui est en vous, qui rejoint ce que nous disons, parce que sinon, il n'y aurait pas de communication non plus. Enfin bon, voilà ce que je voulais dire.
Je veux peut-être juste 2 points, et c'est pour ça que je disais, je ne vise personne dans le sens, en particulier, enfin, là où je crois que les anthropologues ont quelque chose et qu'il faut devenir technique, qu'est-ce que ça veut dire qu'un anthropologue, moi je suis co-directrice de 2-3 thèses en anthropologie et c'est là que j'ai compris l'anthropologie, le terrain, c'est quelque chose, c'est une expérience assez singulière puisque c'est la source d'une connaissance qui se fait dans l'interaction avec quelqu'un d'autre. Les sociologues n'ont pas ça, hein. C'est pas de la même façon que ça se passe. Et donc, cette transformation, justement, c'est ça que je pense, altération, transformation réciproque, est la source. Ça s'est passé dans ces thèses-là et dans ce travail-là. Et si ça se passe pas, c'est encore autre chose. Tandis que ceux qui ne passent pas par une telle transformation et qui disent, nous allons apprendre d'eux, moi, je suis mal à l'aise. S'il y a un dispositif de débat, autre chose à nouveau. Donc, il faut aller rechercher des lieux et des dispositifs de mise en risque où il y a transformation réciproque réelle. Moi, je ne suis pas sûre que quand on fait dans un musée un lieu sacré, qu'on puisse vraiment dire qu'on a eu une expérience du sacré. Vous voyez, là, je me dis, attention, il y a quand même la transformation réciproque, ça exige des choses. Et je crois que c'est pas mal de réaliser que dans les débats et les réflexions et les savoirs qu'on est en train de faire, les anthropologues ont un rôle assez particulier. Ça peut aussi être des artistes, pour autant qu'ils ont fait ce travail, que quelque chose s'est passé. Les autres, j'aimerais bien que parfois ils se calment un peu. Et c'est vrai, juste on se calme. Moi, j'ai pas été là-bas, je vais pas, voilà. Deuxième chose que je voudrais dire, oui, aller chercher en nous-mêmes et non. Puisqu'il y a peut-être un fond, effectivement, mais n'oublions pas qu'on est issu aussi d'une éradication assez fondamentale et que ça ne s'invente pas de toutes pièces. Le rapport, tout ce qu'on appelle maintenant le folklore, moi je le cherche pour les polders, mais c'est pas si facile à réinventer, de se reconnecter à ces histoires-là pour être... Ça, oui, ben, voilà. Donc, de prendre la mesure de la violence dont nous sommes issus aussi, quand il faut recréer des résurgences.
Agir sur ce mot de folklore qui est en fait un outil, notamment pour certaines populations autochtones, qui disent eux-mêmes qu'ils surjouent un folklore parce que c'est la seule manière de se faire entendre. Et que ce folklore, effectivement, on l'a en France, on l'a en Europe. Je vous renvoie à une très intéressante exposition qui est au Centre Pompidou-Metz il y a environ 2 ans, justement, sur cette question du folklore. Mais le folklore, en fait, on s'en méfie. On s'en méfie beaucoup, sauf quand ça vient d'ailleurs. Là, ça nous intéresse.
Ici, c'est la seule source qu'on ait. Hein. Moi, je dois aller lire, et c'est assez pénible hein, parfois, je dois aller lire les livres et les revues de folklore pour essayer d'avoir encore quelques bribes de ce que c'était à peine un siècle.
Donc, moi, je ne me vois pas négativement. Donc. Je vais vous donner un micro. Merci beaucoup.
Merci. Juste, avec le cartésianisme, on a éliminé justement tout ce folklore. On a éliminé toutes ces particularités. Alors, moi, je travaille sur l'idée, le concept de l'écologie de la conscience, c'est-à-dire d'aller retrouver en fait, l'accès à différents états de conscience. Moi, je sais qu'il y a eu une station là-dessus il y a un petit moment, mais bon, c'est quelque chose d'assez commun que vous connaissez tous, mais c'est à mon avis la voie, le chemin pour effectivement retrouver en nous une conscience des autres mondes qui sont autour de nous, qui ne sont pas visibles, et qu'effectivement, à partir de ces états et de cette possibilité d'y accéder, on a du coup aussi un commun avec tous ces peuples premiers qui ont conservé en fait ce chemin.
Moi, j'aurais peut-être réagir là-dessus en disant quelque chose qu'on oublie peut-être dans le débat ici aussi, qui est en fait les modernes ont, enfin, on peut dire les modernes sont dépeuplés de non-humains dans d'autres mondes, etc. Mais il y a une autre dimension où ils n'ont jamais été modernes. Ils ont perdu beaucoup de choses, mais il y a aussi un rapport aux sciences où, en fait, dans quel endroit on est peuplé d'êtres invisibles, de non-humains, on ajoute des êtres, etc. C'est dans ce rapport-là. Et pour moi, le chemin dont vous parlez, on peut dire ça doit coexister avec ça, mais réapprendre à se présenter, c'est aussi se réapprendre à se présenter avec ce non-humain-là qu'il s'agit d'entretenir, de maintenir dans ces pratiques scientifiques-là. Et de, je pense que c'est important de situer ces nouvelles narrations. Déborah Bordereau, quand elle dit les humanités environnementales, elle origine ce mouvement. Enfin, on voit que c'est des non-humains qui inspirent ces nouvelles narrations. C'est les non-humains issus de l'anthropologie, mais c'est aussi les non-humains de l'histoire naturelle, de rapport aux sciences, etc. Anna Singh, Donna Haraway, etc. C'est cette double filiation-là qui existe. Et du coup, il y a tout ce qu'on a perdu, il y a le folklore, et il y a tout ce qui existe en coulisses et dont on ne prend pas soin, qui est une culture moderne à entretenir sur un mode non négligent. Et voilà, c'est juste.
Ce que je voulais justement évoquer, je dirais que c'est presque ce que vous évoquez, un principe constitutif du projet du laboratoire Espace-Cerveau, en ce sens que, alors évidemment, à l'échelle de ce que nous sommes, de façon située dans un lieu d'art au départ, qui travaille de façon transversale avec des chercheurs, on va dire, de tout bord, au sens large vraiment du terme, que c'est à notre portée, dans ce sens que les artistes sont des explorateurs et des prospecteurs, des spéculateurs, à mon sens, plus aiguisés et affûtés que d'autres. Hein, ça, bon, après, c'est une croyance comme une autre. Et que de travailler ensemble et sous l'angle, justement, qui n'est pas celui uniquement des mots, des yeux, mais aussi ceux de l'expérience artistique et perceptuelle, permet de rentrer dans des processus de transformation potentielle qui évidemment ne sont pas du mimétisme, d'un exotisme ou autre, mais qui sont peut-être nos possibilités à nous de réinvestir ces zones oubliées ou autres. C'est un petit peu comme ça qu'on essaye de travailler.
Ouais. Oui, et je crois que c'est intéressant de le voir comme ça, mais de le voir avec toutes les exigences qui vont de se dire l'art comme les sciences, comme l'anthropologie a sa manière de pouvoir maintenir, faire rester des êtres, etc. Mais moi je mettrais un petit bémol là-dessus en disant en fait, oui, mais c'est à faire avec toutes les dévastations qui font aussi partie de ce que c'est l'histoire de l'art des modernes, en tant que là où d'autres collectifs ont des choses qui ont été accaparées et considérées comme de l'art, alors que ce n'était pas de l'art, c'était quelque chose qui maintenait un collectif vivant, qui avait tout un sens différent que notre art moderne. Donc, on hérite aussi d'une amputation en tant qu'artiste, qui est, prenez quelque chose qui a ce rôle de maintenir un collectif, mettez-le dans un musée. C'est très difficile, il faut dealer avec ça et il faut essayer de désactiver ces amputations-là dont l'art hérite aussi. Et donc, c'était pour aller dans votre sens en disant oui, et avec toute une prise en charge.
Mais là, il faut aussi falloir être radical de notre côté. Moi, je propose qu'on arrête de parler d'art contemporain. Je veux plus que l'IAC s'appelle Institut d'art contemporain. Je pense que là, on a bien parlé de comment cette modernité, ces musées d'art moderne, même la Tour le dit, ça reste musée d'art moderne, mais là, ça reste l'art contemporain. Là, il y a fracture ou pas, bifurcation ou pas, tout ce qu'on veut, mais on a inventé ce qui va venir, c'est tout. Mais avec l'héritage, certainement, parce qu'il n'y a pas de raison de... Mais on ne va pas s'alourdir de l'héritage, c'est-à-dire qu'on peut trouver une manière de l'inventer. Moi, je crois même que je ne me sens plus du tout, moi, à titre personnel, à partir des grandes... de ce grand milieu qu'on a appelé le milieu de l'art contemporain. Je pense qu'il faut arrêter de penser sous cette lunette-là. Quoi. Ça n'a pas de sens. Mais je n'appartiens plus à ce milieu, moi. Personnellement, je suis sur plusieurs milieux. Alors, c'est effectivement déroutant. Hein, mais j'ai l'impression que le fait de travailler ensemble nous amène à nous situer différemment aussi. Ce qui n'empêche pas d'être situé.
Alors, petite altération. IAC, vous gardez le C, mais ça ne veut plus dire contemporain, mais commun.
Je suis bien d'accord. Alors, grand merci. Là, ça y est, on est parti. Non, mais bon, bien d'accord.
Et peut-être qu'on pourrait faire une station, justement, sur les altérations qu'on a ici, maintenant, pour nos territoires et défendre nos territoires. Et je me dis, alors, ça pourrait être des petits exercices spéculatifs du genre rapport d'incidence environnementale, mais plus avec la notion d'écosystème, parce qu'on a vu ce que ça donne, mais avec la notion de coévolution. Moi, je suis à la recherche de termes, peut-être de sciences, où les faits et les valeurs vont ensemble. Coévolution, on y tient. on a coévolué avec ça, on veut pas, ben non, vous ne pourrez pas le briser. Ce genre de choses, exercices où, voilà, qu'est-ce que ça voudrait dire ici, maintenant, avec les outils qui sont les nôtres et des exercices de conscience, pourquoi pas, de voilà, mais de ici, maintenant, là où on est, quoi, c'est super important.
Il y a vraiment la dimension pédagogique, je veux dire qu'on a bien parlé des autochtones ou indigènes qui ont besoin de surjouer un folklore pour faire attirer l'attention. On est, nous, dans cette situation de ces indigènes ou autochtones où on doit attirer l'attention pour pouvoir agrandir et travailler cette manière de faire, cette manière d'essayer de faire et d'inventer. Et du reste, c'est pour ça qu'on va créer l'école du laboratoire, mais on ne sait pas du tout comment. Mais parce que justement, le fait plus que communicationnel, le fait pédagogique devient fondamental. Et dans un apprentissage collectif. Parce que là, nous, on arrive un petit peu au bout. À un moment, il faut apprendre ensemble, me semble-t-il.
J'aimerais aussi, j'allais donner la parole à notre participant actif, mais aussi à d'autres, si vous avez des questions, des remarques.
En réalité, je suis un peu embêté. Parce que comme j'étais censé, enfin, la discussion a pris une tournure qui a évolué bien au-delà de la question que j'allais poser, donc je ne vais pas la poser parce que on va repartir dans ce qu'on a déjà dit. Je voulais juste vous remercier pour cette intervention qui, je trouvais nécessaire effectivement de repartir sur le problème de ce dont on hérite et comment on le fait importer et j'ai beaucoup apprécié en fait le fait que vous évitez et notamment Alice même via l'humour en fait aussi qui je pense que c'est une donnée qu'on ne prend pas suffisamment en compte mais via l'humour et tu évites, c'est une sorte de tentation d'innocence en fait, je pense, de justement quand tu dis on pourrait facilement se moquer de Carl Sagan, mais non, tu vas le considérer avec tout le sérieux qu'il faut, avec lequel il faut le considérer. Donc, je trouvais que voilà, c'était assez chouette. Voilà.
Oui, et ça c'est vrai que c'est quelque chose d'important dans le récit que j'essaie de faire, la distinction entre ironie et humour finalement. C'est une distinction que reprend Haraway aussi. Disant la posture ironique, le ricanement, c'est quelque chose qui ça met très à l'aise. Quand on est en train de ricaner, c'est pas notre problème. Alors que l'humour, ça peut être cette autodérision de se dire c'est comme ça qu'on a appris à se présenter. Et du coup, ce mouvement bien plus étonnant finalement qui se dit ah oui, c'est vrai, on a vraiment c'est vraiment comme ça que ça s'est passé pour nous. Bah du coup, un nous qui n'est pas du tout un nous d'auto-flagellation, hein, on est impur, coupable, etc. Mais qui est un nous de responsabilité en se disant et comment on fait maintenant à partir de là? Et du coup, c'est toutes des notions importantes, distinction humour, ironie, et de dire récit non innocent, mais éviter ce récit de culpabilité qui, en fait, ne fait qu'attendre une nouvelle rédemption à la place de dire, voilà, on composera toujours avec des matériaux bâtards, en quelque sorte. Et, enfin, voilà, merci pour ta remarque.
Je voulais juste aussi dire que je trouvais assez intéressant cette idée de considérer comme des non-humains toute cette partie des sciences et des mathématiques, et ça me faisait repenser aussi à ce que dit David Abraham dans Comment la Terre s'est tue, et qui dit que peut-être l'animisme des sociétés lettrées, en fait, elle se trouve justement dans le récit, et que à travers les textes, bah finalement, on entend le vent, on entend la rivière coulée, et qu'il y a tout un univers aussi qui se met en marche de sons, d'odeurs au-delà des mots, et que peut-être aussi effectivement il y a tout une matière ici qu'on a tendance à ne pas voir et ne pas exploiter dans un rapport à justement l'invisible et au vivant élargi.
Peut-être pas à ne pas voir, mais au moins à déconsidérer.
Il y a quelque chose qui m'est apparu aussi, c'est plus un commentaire en fait qu'une question. C'est vraiment pour moi la différence fondamentale entre une vision européenne et En Australie, c'est en fait une considération du temps qui est très différente. En Europe, une considération du temps linéaire, extractiviste, progressiste, où il faut toujours faire mieux, faire plus. Donc je pense que la notion d'écosystème, elle fait partie de ça, de réguler, de faire moins pire, de... Voilà. Et alors qu'en Australie, pour les aborigènes, le temps n'est pas du tout comme ça. En fait, le passé et le futur ne sont pas considérés de cette manière. Et du coup, j'ai l'impression que peut-être la régulation du temps est le processus premier de colonisation, et que peut-être pour penser de nouveaux modèles, en fait, c'est aussi réfléchir à cette donnée, peut-être dans le contexte européen, et à considérer aussi dans comment nous voyons le futur.
C'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai appris des écoféministes des années 80, des actions, c'est à chaque fois ce décadrage, le fait qu'elles se posaient dans un temps épais différent de ceux à qui elles s'opposaient. Et je crois que la construction de temps épais différent est la clé, en fait, pour les écologistes. Maintenant, quand on va le leur dire, c'est peut-être un peu qu'on essaye, mais en tout cas, c'est quelque chose que je voudrais faire pour les polders d'Anvers et que j'ai aussi déjà vu à Bruxelles. Quand on veut défendre une friche contre la spéculation immobilière, on n'a rien. On a 3 abeilles, 4 orchidées, et en fait, c'est très difficile à faire importer ça. Par contre, quand on a à nos côtés quelques historiens qui font les archives et qui peuvent dire, mais vous savez, là, au fait, c'était les chemins ferroviaires. On a déjà expulsé des gens ici. Cette terre est une terre où les violences n'ont cessé de se perpétrer. Donc, ce que vous allez faire est une violence qui se rajoute à toutes ces violences depuis 200 ans. Donc, c'est le temps long, là, c'est bêtement le temps long, mais d'investir le lieu avec toute cette mémoire-là, tout à coup, ben, ça fait hésiter. Parce que c'est, ah oui, ça fait 200 ans qu'on fait du mal à cette friche, quelque part. C'est déjà la mémoire, la terre est hantée par ces fermiers, ces agriculteurs et ces paysans qu'on a expulsés pour les chemins ferroviaires. Et donc, j'ai essayé de le tester, ça n'a pas... Je crois que la spéculation va quand même avoir lieu. Mais tout à coup, il y avait quand même quelque chose de l'ordre de « moi, je veux retrouver la force qu'on a d'une parole publique qui dit « il faut que ça cesse ». Et « il faut que ça cesse », il faut trouver un équipement pour pouvoir le faire exister. Et je crois qu'effectivement, le temps linéaire ne le permet pas. Déjà, le passé, il est passé, donc au fait, il est passé, il n'y a rien à en attendre. Non, le passé, il est encore là. Il crie encore dans cette frise. Et c'est ce type de dramatisation, et ça fait un peu penser à ce que tu disais sur la déconsidération des outils que nous avons. Et ce type d'outils, on l'a, la dramatisation. Il faut trouver des outils de dramatisation. Et dès lors, vraiment, moi je crois, se méfier de pas mal de choses qui nous viennent de l'écologie, plus technique, sciences de la nature, et qu'au fait, dont on s'empare, tout en oubliant, mais les décoloniaux sont là pour nous, que la mémoire est un épaississement et de dramatisation terrible. Moi, je crois qu'il faut dramatiser tout. On n'a jamais assez de drame pour essayer de résister. C'est ça qu'il faut. Tout à coup, le ministre, là, il ne peut plus nous dire « Ah ouais, mais 3 abeilles, vous pensez que c'est moins important que 10 logements, 3 abeilles ?» Mais non, mais c'est pas de ça qu'on parle. Est-ce qu'un jour, ça va s'arrêter ? C'est une autre question. Donc, le décadrage par le temps et les temporalités, j'en suis convaincue. Et mais ça vient d'ailleurs de Deborah Bird-Rose et Reports from a Wild Country. Moi, j'ai appris ça là.
Il n'y a pas d'autres questions. Nous allons faire une pause, prendre un petit café et continuer à discuter ici. Et on vous retrouve en ligne dans 20 minutes.